Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris, et comme toujours, je suis accompagné de Yann.
Salut à tous.
Aujourd'hui, on reçoit François Houlac, journaliste et cofondateur du podcast Le Chip. Vous êtes peut-être déjà tombé sur un de ses articles, vu qu'il a travaillé avec pas mal de médias ces dernières années. On peut citer Combini, Loopsider, Brut, Slate, Yard, Numérama ou encore Le Monde. J'ai d'ailleurs en tête un très bon article écrit pour Le Monde sur la représentation des personnes noires dans le jeu vidéo. Ouais. Salut François, comment tu vas ?
Salut Chris, salut Yann, je vais très bien et je suis très content de participer à ce podcast. Mais bon, on en parlera tout à l'heure, mais vous me faites du mal, quoi. Vous me torturez, quoi. Trois jeux, c'est un scandale. Mais bon, allons-y.
Yes. Bah, sans plus attendre, intéressons-nous au top 3 des jeux qui t'ont le plus marqué. Donc, pour le premier jeu, on retrouve Dragon Ball Z, la légende Saiyan.
Tout à fait.
Le jeu est sorti sur Super Nintendo en 1994.
Ouais.
Donc, forcément adapté du mythique manga. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment t'es arrivé là?
Dragon Ball Z 2, ouais. Alors, en fait, j'ai beaucoup hésité déjà sur le premier... Enfin, j'ai hésité sur les trois jeux, comme je vous disais, parce que, voilà, demander à quelqu'un de trois jeux, c'est trop peu, en fait. Donc, c'était vraiment un vrai casse-tête, parce que j'ai un CV vidéoludique assez rempli, en fait, je me rends compte. Et d'abord, j'ai hésité avec Zelda Link's Awakening sur Game Boy, qui était mon premier jeu vidéo que je possédais en propre sur la Game Boy noir et blanc. Donc, je me suis dit, allez, je vais prendre celui-là parce que, voilà, plein de souvenirs, etc. Et puis, bon, finalement, je suis parti sur DBZ parce que il y a tellement de dimensions différentes, si vous voulez, à ma passion pour DBZ que je me suis dit que c'était un bon exemple, en fait. Parce que, bon, pour décrire un peu, du coup, bon, bah, DBZ 2, c'est un jeu de combat, bah, sur Super Nintendo en 2D, on va dire que, Il y a un mélange très 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 simple de coups spéciaux, un peu comme on peut voir dans Street Fighter. Et le truc qui était vraiment assez révolutionnaire pour l'époque et qui était une super mécanique pour retranscrire l'impression d'espace qu'on a dans les combats de DBZ, parce qu'on a quand les personnages dans DBZ se tapent, on a l'impression qu'ils se battent sur des kilomètres et des kilomètres à force de voler, de se téléporter, tout ça, la terre entière et leur ring un peu. Et donc, ce qui était super cool dans DBZ 2, c'est que quand tu utilisais les gâchettes L et R, tu pouvais te déplacer à très grande vitesse pour t'éloigner ou te rapprocher très vite de ton adversaire. Et tu avais une touche qui permettait de t'envoler. Donc, en fait, tu pouvais te battre soit sur le plan sol, soit si tu t'envolais, tu te tapais dans le ciel avec ton adversaire. Et quand tu étais loin de ton adversaire, du coup, tu avais un écran qui se splittait en deux, du coup, pour permettre à chaque joueur d'avoir de la visibilité.
Ok.
Et à partir du moment où tu étais en mode écran splitté, donc on va dire en mode combat longue distance, tu pouvais déclencher certaines attaques spéciales, notamment tout ce qui est Kamehameha, Final Flash et des trucs comme ça. Et de là, il y avait toute une mécanique qui se mettait en place où tu envoyais ton Final Flash. Le joueur en face, du coup, pouvait choisir soit de riposter, soit d'exploser ton attaque avec une vague d'énergie, etc. Enfin, c'était un système de jeu assez bien pensé, en fait, pour l'époque. Et du coup, si j'ai choisi ce jeu, c'est parce que, bon, bah, déjà, je suis né en 88, donc je suis vraiment en plein dans la génération Club Dorothée, DBZ, etc. Et faut savoir que, voilà, je suis un immense fan de DBZ, j'ai un tatouage Dragon Ball sur le bras, j'ai vraiment été matrixé par DBZ et plus généralement par la culture manga. Encore aujourd'hui, je suis un grand grand fan de manga. J'écris des articles. Enfin, ça m'est arrivé d'écrire des articles sur la culture manga et le Japon, tout ça. Et donc voilà, quand DBZ 2 sort, on est en 94, donc j'ai 6 ans. Et en fait, j'ai découvert ce jeu sur la Super Nintendo de mon cousin. J'avais pas la Super Nintendo, en fait. J'ai jamais eu la Super Nintendo.
D'accord.
Et donc, en fait, chaque été, je faisais la même chose. Chaque été, moi, j'ai vécu à Paris depuis mes 6 ans. Mais chaque été, je rentrais un mois en Martinique et un mois en Guadeloupe pour voir la famille. C'était chaque grande vacances, c'était ça. Jusqu'à mes 18 ans, c'était ça.
OK.
Et si vous voulez... Quand je revoyais mes cousins, ma famille, bon, j'étais toujours très content, évidemment, et notamment un de mes cousins avec qui on est très proche, Et donc du coup, on aimait tous les deux les jeux vidéo. Et dès que je le voyais, il sortait la Super Nintendo et on passait des après-midi entières à jouer à Mario World, à Dragon Ball Z 2 évidemment, et d'autres jeux comme Street Fighter, etc. Et du coup, j'ai gardé des souvenirs extrêmement forts de Dragon Ball Z 2. Parce qu'en plus, on était en pleine folie DBZ. C'était l'époque du Club Dorothée. C'était l'époque où DBZ passait à la télé, en fait. Quand par exemple, mon père faisait les courses à Auchan, je restais pendant 2 heures dans le rayon manga à lire Dragon Ball. J'étais assis par terre et je lisais Dragon Ball. Enfin, j'étais vraiment complètement fondu de DBZ. Quand j'étais petit, mes deux passions dans la vie, c'était Garfield, la BD, là, et Dragon Ball. Il y avait que ça dans ma vie. Et donc, ouais, j'ai gardé beaucoup, beaucoup de souvenirs de DBZ 2. Notamment la qualité des graphismes qui était incroyable pour l'époque, les musiques. Je sais pas si vous avez essayé d'y jouer ou pas.
À celui-là là, sur Super Nintendo.
Ouais.
Non, mais c'est vrai que ça doit exister un émulateur à mon avis pour pouvoir.
Ouais. J'ai joué en émulateur pendant pas mal de temps après la fin de la Super Nintendo. Mais en gros, chaque personnage avait son propre thème musical. Et les musiques étaient assez mythiques, notamment la musique de Gohan, qui depuis est devenue une sorte de classique, on va dire dans les jeux vidéo DBZ, qui a été reprise dans plusieurs jeux, notamment Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 sur PS1, qui est un jeu de merde, hein, qui est un jeu horrible, c'est un des pires jeux auxquels j'ai joué de ma vie, mais j'y ai joué quand même parce que je voulais essayer tous les DBZ. Mais qui est à chier, mais ils avaient repris la musique et c'était un thème au piano qui était assez épique. Ça faisait enfin bref, c'était un truc assez épique.
On s'y croit là.
Non, mais je te jure, les bruitages des coups aussi étaient super dynamiques, super appuyés, et c'est un jeu qui avait également des voix digitalisées. Ce qui était également assez rarissime et un gage de grande qualité pour l'époque. Quand tu compares à Dragon Ball Z version Mega Drive auquel j'ai joué également, et où en fait les voix, c'est pas des vraies voix digitalisées, ils ont fait ça avec le logiciel MIDI, j'imagine, de la console, où ça fait tu vois, ça fait des voix un peu chelou. Là, c'était des vraies voix enregistrées sur des micros, puis digitalisées dans la carte son de la console. Ce qui, à l'époque, était vraiment le top niveau en termes de qualité, quoi. Et donc, les voix étaient d'extrêmement bonne qualité. Évidemment, c'est doublage japonais, donc les voix de Vegeta, de Trunks, tout qui tu veux, elles étaient super bien retranscrites. Et je me rappelle d'un truc, c'est quand justement, quand je vous disais, quand tu t'éloignes de ton adversaire et que l'écran devient splitté en mode combat à grande distance, ouais, tu peux balancer ton attaque spéciale, comme je te dis, que ce soit Kamehameha, Masenko, tout ça. Et quand tu déclenches l'attaque, t'avais ton aura qui grandissait, comme dans le manga, t'avais des éclairs et tout autour de toi, et t'avais un bruit vraiment de tonnerre qui était super bien retranscrit. Vraiment, tu sentais ils arrivaient vraiment à retranscrire la puissance du jeu à travers, des personnages à travers le son. Et t'avais la voix du personnage qui annonçait l'attaque. Genre, t'imagines qu'il y a Goku qui fait Kamehameha, comme ça, tu vois, avec la voix digitalisée. Et il mettait une sorte d'effet d'écho. Il mettait une sorte d'effet de reverb ou d'écho sur la voix en mode Kamehameha, comme ça. Mais pff, oh là là. Non mais je vous jure, le gamin de 6 ans que j'étais à ce moment-là était complètement soufflé, et quand tu balançais l'attaque, ça faisait t'avais l'impression d'une déferlance, c'était incroyable, vraiment c'était incroyable. Et donc voilà, j'étais accro à jeu, et c'est notamment sur ce jeu que j'ai passé ma première nuit blanche, en fait, ma première nuit blanche gaming, en fait.
Ok, putain, c'est ouf de se souvenir de ça.
Ah ouais, bah franchement tu t'en souviens, tu vois, parce que à la vérité, bon, je vous raconte, en gros, on jouait, il y avait mon cousin et ma sœur qui a 3 ans de plus que moi. Mon cousin a 5 ans de plus que moi, donc j'étais le plus petit, et en gros, ma sœur jouait contre moi, mon cousin elle me battait parce que c'est son jeu, ma sœur elle me battait, et moi j'étais là, et comme je suis mauvais joueur et tout, j'étais là, je chouinais machin, j'étais pas content de perdre, et mon cousin dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va faire une sorte de training, une sorte de bootcamp. On va t'entraîner. Et comme ça, tu battras Laurence, tu battras ta sœur. Et du coup, j'ai fait OK. Et on était chez ma grand-mère. À chaque fois, en fait, qu'on jouait, en fait, chez avec mon cousin. En fait, quand je venais pour les vacances en Guadeloupe, mon cousin venait dormir chez ma grand-mère parce que moi, j'étais chez ma grand-mère. Et du coup, en fait, on passait nos vacances ensemble avec ma grand-mère, mes parents, etc., dans la grande maison de famille. Donc, c'est très agréable. Comme j'ai plein de souvenirs comme ça. Et si vous voulez, ben du coup, mes grands-parents et mes parents, enfin, étaient couchés. Tout le monde était couché. Et là, il a commencé à me dire, bon, OK, tu prends ton perso. Et il a commencé à me train, genre en mode, voilà, ça, c'est tel coup spécial. Si jamais tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Enfin, vraiment, un vrai stage de perfectionnement. Et on a continué à jouer comme ça pendant jusqu'à 3h du matin. Et vous allez me dire, c'est pas du tout une nuit blanche. Mais à mon échelle, j'étais en primaire. C'est la première fois que je jouais autant à un jeu de suite. J'ai dû jouer 3-4 heures de suite. Et c'est la première fois que je me couchais aussi tard, je pense.
Ouais, je pensais que t'avais réveillé ta sœur à 3 heures. Bon, allez, c'est bon, je suis prêt. C'est parti.
Non. C'est le lendemain qu'elle a constaté mes progrès et que je l'ai battu à plate couture.
Quand tu t'es levé à 15 heures, non?
Ouais. J'ai dû me lever très tard ce jour-là. Mais en gros, c'est là que j'ai fait ma première, du coup, nuit blanche, entre guillemets, sur un jeu vidéo. Et j'étais super content Et voilà, et comment vous dire, c'est un jeu qui m'a poursuivi pendant des années et des années, sachant que j'ai d'abord eu la Game Boy, donc j'avais pas la SNES. Après, j'ai eu un PC, donc j'avais pas la SNES. Et ensuite, je suis passé sur la PlayStation 1, 2, 3, 4, donc j'ai jamais eu la SNES. Et donc, en fait, pendant ma période PC, si vous voulez, j'avais quand même envie de jouer à la SNES et aux autres consoles. Et en fait, quand j'étais en 6e ou 5e, je me suis pris de passion pour l'émulation. Et je me suis mis à télécharger des émulateurs donc de Super Nintendo, de ce que vous voulez, de Mega Drive, de Game Gear, de NES, etc. Et sur mon PC. Et du coup, j'avais un monde qui s'est ouvert à moi de jeux vidéo, et notamment de jeux vidéo que j'avais jamais pu posséder en mon nom propre. Notamment un jeu qui s'appelait Streets of Rage sur Mega Drive.
Oui, avec les musiques.
Exactement, avec une BO absolument mythique.
Incroyable.
Yozo Kishiro, il s'appelle, le mec qui a fait la BO, incroyable. Et donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai passé des années à rattraper, et même à découvrir d'autres jeux que je connaissais pas, des jeux japonais aussi qui sont jamais sortis en Europe, mais je m'en battais les couilles, je téléchargeais, etc. Je jouais à des tas de jeux. Et évidemment, pourquoi j'ai commencé à mettre à l'émulation, c'est parce que la première chose que j'ai voulu faire en ayant un PC, c'est de pouvoir rejouer à DBZ2. Donc j'ai téléchargé DBZ2 et en fait pendant des années, même après quand j'ai eu la PlayStation et tout, j'ai continué à émuler. Vraiment, c'est un truc, c'était une grosse partie de ma vie de gamer, l'émulation. Et donc le premier jeu que j'ai téléchargé lorsque j'ai commencé à me mettre aux émulateurs, ben c'est Dragon Ball Z2. C'est Dragon Ball Z2, la légende Saiyan, que j'ai fumé pendant des années durant. J'ai téléchargé le 1 aussi pour le découvrir. J'ai téléchargé le Dragon Ball Z3. J'ai téléchargé Dragon Ball Z Hyper Dimension, qui était la suite, qui avait un gameplay très différent, plus à la Street Fighter, mais qui était moins bon. Et je suis resté fan de DBZ toutes ces années. Et j'ai joué à toutes les adaptations de DBZ vidéoludiques, françaises ou japonaises.
Ok.
Jusqu'à la PlayStation, on va dire. PlayStation 2. En fait, j'ai joué à tous les DBZ jusqu'à la PlayStation 2. Voilà.
Okay.
Et à partir de PlayStation 2, je me suis un peu calmé. Et je peux vous dire que j'ai jamais joué à une meilleure adaptation. La meilleure adaptation de DBZ, je pense que c'est ce jeu-là. Il n'a jamais été détrôné avant un jeu qui s'appelle Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, qui est sorti sur PS2 et qui était vraiment très 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 bon. Et je vous jure que j'ai jamais joué à une meilleure adaptation de Dragon Ball avant que Budokai Tenkaichi, donc en 2005, 6, je crois, peut-être 9, arrive. Donc voilà, DBZ2, c'est beaucoup de souvenirs très 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 viscéraux, très sentimentaux pour moi. Et je veux dire une dernière chose sur ce jeu-là, c'est que je vous parlais des musiques tout à l'heure et on parlait de Streets of Rage justement. Mm-hmm. Et DBZ2, c'est aussi un des jeux qui m'a très vite inculqué l'amour de la musique vidéoludique, en fait. Parce que moi, j'étais le genre de gamin, quand j'ai eu la Game Boy, vous savez, je sais pas si vous avez fait ça, vous avez déjà collé votre oreille au haut-parleur de la Game Boy ou pas?
Moi non, mais jolie idée, ouais.
Vous avez quel âge, les gars?
28.
Je vais l'avoir 28 aussi, ouais.
28. Bon, ça va, vous êtes pas beaucoup plus. Moi, j'ai 32, vous êtes pas beaucoup, beaucoup plus jeune que moi. Vous avez commencé par quelle console?
Nintendo 64.
Ouais, 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 j'ai 64 aussi en tête, mais j'ai joué à la SNES avant.
Oh, les gars, vous avez commencé par la 64.
La 3D, direct. Direct.
Ah ouais, non, mais.
Non, c'est grand luxe, grand luxe.
Ouais, non, mais c'est quoi? Moi, j'ai vraiment started from the bottom, quoi, comme Drake, hein.
J'ai ouais.
La Game Boy, Game Boy noir et blanc et tout. Et en gros, notamment quand je jouais à Zelda, Link's Awakening, c'est le premier jeu qui m'a fait coller mon oreille au parleur, en fait, de la console, juste pour écouter les musiques. Qui sont évidemment de très grande qualité, hein. Le thème principal de Zelda, vous le connaissez, j'imagine.
Ouais.
Et du coup, j'ai gardé ce goût pour la 8-bit music et tout, toutes ces années. Et donc, Zelda, Streets of Rage, dont on parlait, Chris, qui a évidemment des musiques excellentes.
Ouais.
Et Dragon Ball Z2, pour moi, c'est vraiment les jeux qui m'ont le plus ému musicalement. Et c'est des trucs qui me sont restés à vie, quoi.
Mais tu sais que... Tu m'as dit Link's Awakening, et c'est très drôle parce que j'ai une histoire à Montréal. Moi, je me baladais avec ma Switch, puis je jouais à Link's Awakening, et j'étais dans, j'ai jamais envie de déranger les gens, donc je mets jamais le son de rien. Tu sais, genre, c'est vrai que quand on avait la Game Boy Advance ou la Game Boy, juste la Game Boy, tu mettais le son, ça faisait un son pas possible, et puis t'étais sur ta console, mais il y a un monde autour.
Ouais.
Et donc, j'ai jamais mis le son pour rien. Puis, j'étais dans le bus, et j'avais mes écouteurs, j'écoutais juste de la musique, mais, ma console avait zéro son. Puis j'étais en train de jouer. Puis au moment, il y a un mec qui m'a dit, par contre, tu pourrais retirer le son. Et en fait, là, j'ai retiré mes écouteurs. Ma Switch était à fond dans le bus. Sur Link's Awakening. Personne n'a bronché. Tu vois, je me suis dit, les gens, ils ont quand même profité. Puis il y en avait un à côté de moi. Il a dit, bon, mec, là, vraiment, ça a pu être possible. Ton son, il est vraiment à fond. mais c'est vrai que c'est pour ça que les consoles de salon, c'est ce que je préfère dans le sens où, bah, je mets le son à fond et puis on s'en fout, tu vois, genre. Alors que les consoles portables, tu sais, genre, bah, comme t'as dit, tu mettais ton oreille à côté, parce que j'imagine que ouais. Tu voulais pas non plus mettre ça le plus fort possible.
C'était pas pour ne pas déranger, hein.
Non, non.
C'est parce que le fait de coller mon oreille, c'est comme si j'avais un Walkman, si tu veux, à l'époque.
Ouais.
Et puis, tu saisissais les moindres nuances de la musique, en fait. Tu l'écoutais vraiment tu écoutais la musique de près, quoi, littéralement.
De manière détaillée, quoi.
Exactement, de manière, et tu pouvais saisir les, et tu te rends compte qu'avec une Game Boy, qui est quand même une console 4 bits, c'est vraiment c'est une calculette, le truc. Ils arrivaient déjà à faire de la vraie musique, de l'art, quoi. Et tu pouvais écouter les basses que t'entendais pas forcément quand tu jouais de loin, et t'entendais plein de petites nuances, et c'était dingue, en fait. C'était dingue. Et ouais, je te dis, tout ça, c'est parti de Zelda et Dragon Ball, quoi.
Je me demande s'ils l'ont refaite, la musique, en plus, sur Link's Awakening. Je crois qu'elle avait été... Elle a été...
Ouais, je crois que déjà, sur la version Game Boy Color, ils l'avaient un petit peu remasterisée, un peu repimpée. Et puis, évidemment, sur les nouvelles adaptations, là, ouais, ils ont complètement remasterisé tout ce que tu veux, symphonique, etc., etc. Et moi, j'aimais bien le côté très synthétique.
Oui.
Du 8-bit.
C'est une texture particulière, ouais.
Exactement, exactement.
Ouais. D'ailleurs, shout out à Baxter qui a fait l'habillage du podcast dans un délire un peu 8-bit.
Ah
comme
ouais.
Ça.
Ah, trop bien. Faut que j'écoute ça. J'ai déjà essayé, hein, d'écouter de la 8-bit musique, mais de la vraie 8-bit musique, c'est-à-dire des mecs qui font de la musique. Ils appellent ça de la 8-bit musique.
Okay.
Je connaissais un groupe notamment qui s'appelait Amanama Gucci. Et en vrai, c'est inaudible. quand c'est pas de la musique de ton jeu préféré ou je sais pas quoi, donc c'est vraiment des mecs qui font des compositions avec des machines d'époque, etc. C'est horrible. horrible.
Shout out to Amanama Gucci.
Mais après, en vrai, je sais pas si vous avez vu ça, mais sur YouTube, il y a pas mal de personnes qui s'amusent à reprendre des chansons populaires en version 8-bit. Là, j'ai en tête notamment des chansons de Tyler the Creator. Et du coup, ça rend hyper bien, tu vois, t'as juste la petite mélodie comme ça, et ça, tu te laisses emporter par le truc, quoi.
En vrai, ouais. C'est devenu toute une sous-culture, là.
Ouais,
là,
c'est ça.
Le pixel art, le 8-bit music et tout, moi, je trouve ça mortel. J'aime bien tout ce qu'on rend rétro, forcément. Je l'aime bien, hein. J'ai une PS4, mais je joue plus souvent à Garou Mark of the Wolves, qui est un jeu Neo Geo dessus. Je joue plus souvent à ça ou à Street Fighter Alpha 3, qui est un jeu PlayStation 1, qui a des vrais jeux PS4, quoi. C'est un peu la honte. Mais ouais. Bah. C'est peut-être aussi à cause de l'émulation.
Ouais, mais en même temps, regarde, avec le Nintendo, ils ont bien compris que c'était plus qu'un petit marché, quoi. C'est un truc énorme. Ils font bien que sûr. Ressortir des vieux jeux.
Alors, ouais.
Cette année, il y a plus de vieux jeux.
Et des vieilles consoles, la SNES Mini.
Ouais.
Ouais, carrément.
Ouais. Oui, c'est vrai, par contre, moi, j'en ai acheté une, je sais plus c'est laquelle, je pense, c'est la SNES Mini, à mon avis. Et les jeux sont archi dur, mais vraiment archi dur. C'est genre rien que Star Fox, j'ai trouvé super dur. Enfin, je sais pas si c'est parce que les commandes sont, tu sais, un peu approximatives, mais et puis le temps de rafraîchissement de l'écran, etc. En fait, c'est non mais tu rigoles, mais en fait au final ça te laisse un temps de réflexe moindre que les jeux d'aujourd'hui finalement.
Ok.
C'est-à-dire que tu sais, si t'as pas réagi entre deux images, bah ça se trouve t'es déjà mort en fait.
Ouais, donc, c'est tout à fait possible. J'ai pas eu de très bons retours sur la SNES Mini. Il paraît que c'est un peu cher payé pour un émulateur avec un petit.
Ouais, c'est ce que les gens disent. Ouais.
Bah, elle est jolie quoi en décoration.
Ouais. Mais l'émulation, ça m'a vraiment. J'ai vraiment été complètement fondu. Enfin, j'ai des souvenirs de dans la cour de récré avec des potes, on s'est changé des disquettes, des vraies disquettes les mecs. Attention. Ça c'est un truc d'ancien. Bon après on avait les CDR et RW, mais d'abord on s'est changé des disquettes et donc on s'est changé des jeux. Sur disquette, il y a des jeux SNES que j'ai joué que en émulation.
C'est
là, je vous parlais de Dragon Ball Z parce que c'est un jeu que j'ai joué en physique et après en émulation. Mais par exemple, il y avait Super Bomberman 2 que mon cousin avait, donc qui est un super jeu multijoueur, etc. Bon, ça c'était cool, j'y jouais en physique après en émulation. Après, j'ai joué au 3 et au 4, c'était en émulation, tu vois, mais j'avais jamais touché à ces jeux-là et j'ai commencé à jouer à des trucs trop chelous. Je jouais à un jeu, ça s'appelait Eisei Inu Monogatari Bow Pop and Smash. C'était un jeu japonais qui est jamais sorti en Europe, mais je sais plus comment. Tu sais, sur les sites d'émulation, tu trouves tout et n'importe quoi. Et en gros, c'était un jeu tiré d'un manga, mais jamais sorti en France. Donc, je savais pas qui c'était ces personnages. T'avais un chien, un dalmatien, t'avais une écolière, une grand-mère qui se tapait et tout avec des raquettes. Et en gros, le but, c'est que t'avais une personne à chaque bout de l'écran. Et t'avais une raquette et t'avais un ballon de foot et donc tu devais envoyer le ballon avec ta raquette dans le camp adverse et marquer des buts et le mec en face il ripostait et t'avais des blocs et des bumpers qui faisaient ta 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 ta, vous savez, un peu un effet
flipper.
Ouais, voilà, un effet flipper. Et t'avais des coups spéciaux, des furies et tout. C'était complètement ouais, donc tout ça c'est commencé à cause ou grâce à Dragon Ball Z2.
Alors, ton deuxième jeu, c'était Project Justice Rival Schools 2, donc un jeu de combat développé par Capcom et sorti en 2000, d'abord sur borne d'arcade et ensuite en 2001 sur Dreamcast. Toi, tu l'as découvert comment et sur quelle plateforme, du coup ?
En fait, j'ai découvert sur... En fait, j'ai découvert la série Rival Schools sur PlayStation 1, parce que c'est un des premiers jeux que j'ai possédé sur PlayStation 1.
Ok.
Et je suis tout de suite tombé amoureux de cette franchise, qui est une franchise vraiment très très sous-estimée, très underrated de Capcom. Tout le monde pense à Street Fighter ou à Mega Man ou à Darkstalkers,
ouais.
Mais Rival Schools, c'était un truc de dingue. En fait, c'est un jeu de combat 3D, enfin en scrolling 2D mais en 3D, avec une esthétique extrêmement manga, très 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 japonisante. Et en fait, l'histoire de Rival Schools, c'est qu'en fait, t'as différents lycées. Dont les élèves, t'as trois personnages combattants par lycée, et en gros il y a une guerre des lycées parce qu'en fait il y a des agressions mystérieuses qui se passent. On sait pas, qu'il y a quelqu'un qui agresse les étudiants de différents lycées, et du coup comme chaque élève mène son enquête, ils sont amenés à se frotter, à se taper contre les élèves des autres lycées, etc. Le gameplay était beaucoup plus permissif que Street Fighter. On pouvait se rattraper de ses chutes, se protéger en l'air. Et comme c'était en 3D, c'était un jeu qui était beaucoup moins rapide que les jeux 2D comme Street Fighter Alpha. Donc vraiment, c'était plus facile à jouer en fait. C'était plus facile pour les néophytes. Mmh. Et la dinguerie de Rival Schools, c'est qu'en fait, tu jouais par équipe de deux. Donc t'avais un personnage à l'écran contre un autre personnage à l'écran, et tu pouvais déclencher une furie qu'on appelait coopération, qui si jamais elle touchait ton adversaire, ça déclenchait une attaque en duo avec ton binôme. Et selon le binôme que tu choisissais, ça déclenchait une furie différente. Donc t'avais des binômes qui te soignaient, t'avais des binômes qui te faisaient qui te défonçaient ton adversaire, etc. T'en avais qui faisaient d'autres trucs, etc. Et c'était un principe qui était absolument génial. Enfin, c'est un truc qui est absolument génial. Et l'intro du jeu, elle était en animation japonaise, donc le truc de fou avec la chanson en jap et tout, enfin tu kiffais quoi. Moi je vous dis, je suis un fan de manga depuis toujours, et c'était un truc de ouf pour moi. Et pourquoi j'ai parlé de Rival Schools 2 en fait, C'est parce que, bah, un peu comme pour DBZ et l'émulation, c'est que pendant des années, en fait, j'ai rêvé de posséder Rivals Couch 2, en fait. C'est pas le jeu... En fait, vous m'avez demandé les jeux qui m'ont le plus marqué.
Ouais.
Mais et c'est marrant parce que Rivals Couch 2, j'ai dû y jouer un truc comme 15-20 heures maximum, ce qui est pas grand-chose, finalement. Mais c'est un jeu que j'ai mis dans ma liste parce que c'est un des jeux que j'ai le plus rêvé de posséder, en fait. Parce qu'en fait, la Dreamcast, pour moi, elle incarne un truc un peu mystique, en fait. Pour moi, la Dreamcast, quand j'étais ado, c'était la console ultime par excellence, en fait. C'était la console qui était trop puissante, trop stylée, trop japonaise, trop chère aussi. Je me disais, mais c'est impossible, j'aurais jamais cette console, en fait. Et au moment où j'ai eu la PS2, la Dreamcast était déjà morte, etc. Et enfin, je sais pas comment vous dire. Je trouve que les jeux ont un peu perdu de leur magie à mes yeux parce que je suis plus vieux forcément, donc ça perd un peu le côté mystique. Vous voyez, aujourd'hui les jeux sont aujourd'hui sont beaucoup plus accessibles, c'est-à-dire que j'allume ma console, j'ai le PSN, je vais sur Steam, je vais sur mon téléphone. J'ai sur émulation, je peux avoir n'importe quel jeu comme ça parce que j'ai plus de pouvoir d'achat et parce que les jeux sont plus faciles à avoir. Et les informations autour des jeux, grâce aux sites de presse, aux youtubeurs, tout ce que vous voulez, tout est plus accessible, en fait, tout est plus facile. Sauf que moi, quand j'étais ado, quand tu attendais un jeu, tu attendais le jeu, tu l'attendais, tu vois, t'avais trois écrans dans Console Plus ou PlayStation Magazine, t'avais trois screenshots de la version japonaise. Et t'avais rien qui fuitait, t'avais pas YouTube, donc tu pouvais pas savoir à quoi allait vraiment ressembler le jeu avant de l'avoir. Les testeurs, c'était des privilégiés en mode
ouais.
Il a joué à Rivals Couch 2. Et en gros, à l'époque, c'est vrai que pour moi, les jeux revêtaient une forme de mystique qui a commencé à disparaître à partir de la génération PS2, je vais dire. Voilà. Et PS3, vraiment, là, c'était dead de chez dead, quoi. Et dans ce cadre-là, la Dreamcast, encore une fois, pour moi, incarnait le rêve et l'inaccessible ultime. La première fois que j'ai joué à Soul Calibur, c'était la Dreamcast était en exposition au Salon du Livre. Ne me demandez pas pourquoi au Salon du Livre, il y avait une Dreamcast à Paris. Il y avait une Dreamcast qui était là en démo, en libre service, et il y avait Soul Calibur dessus. Et j'étais époustouflé. J'avais l'impression que les graphismes, je me disais, on pourra jamais faire mieux. Vous savez ce que c'est, ça quand vous jouez à un jeu et vous dites, bon, bah là, c'est bon. Hein. Là, les jeux vidéo, ils ont atteint leur paroxysme, en fait.
Ouais, Crysis. Je me rappelle, quand j'avais joué à Crysis, j'étais là, mais c'est tellement beau. Et là, maintenant, je regarde, je fais, c'est tellement dégueulasse.
Parce que tu sais, j'ai un pote qui m'en parlait, tu sais, que Crysis, il fait encore galérer des
PC. Mais s'il les fait galérer, c'est plus parce que le code est un peu, genre, semi-caca, je pense, qu'autre chose, non?
D'accord, il est programmé avec les pieds, un peu?
C'est pas hyper polish, mais c'est surtout que, en fait, de ce que j'ai compris, les graphismes, ça joue toujours sur les polygones. Enfin, tu sais, tous les petits triangles, le nombre de petits triangles que tu peux mettre. Et puis là, t'arrives un peu à les voir. Alors que de plus en plus, bah, tu les vois plus parce qu'ils sont minuscules. Donc, non, ça, c'est vrai. Mais t'as raison sur le fait que, il y avait un certain mystisme, dans les achats, en fait, qu'on faisait. Et tu vois, là, j'y ai repensé. Je me suis dit, quand j'étais ado, je jouais genre 4 fois au même jeu. Et aujourd'hui, j'ai 45 jeux de retard. Tu sais, je les ai achetés, j'ai pas joué. Donc c'est vraiment,
il y a trop de jeux. Ouais. C'est comme les séries télé. Aujourd'hui, tu t'as Netflix, t'as trop de séries. T'as à la fois les nouvelles séries qui sortent, les séries étrangères qu'avant on n'avait pas trop accès, les séries coréennes et japonaises qui maintenant sont très très demandées aussi, mais qu'avant on pouvait pas avoir à moins de télécharger des fansubs et des trucs comme ça. Et en plus, grâce aux nouvelles plateformes de streaming, les anciennes séries sont mises en compétition avec les nouvelles. Parce que regarde sur Netflix, tu peux te remater Friends, ou The West Wing.
The Office.
Que t'avais pas vu avant. The Office, bien sûr.
Ouais.
Donc, moi, je suis Team Parks and Recreation. J'ai pas trop aimé The Office.
Ok.
Mais tout ça pour vous dire que,
Et puis notre pouvoir d'achat aussi. Mine de rien, enfin,
le pouvoir d'achat, bien sûr. Avant, un jeu, c'était un investissement, tu sais, avec nos argent de poche. quand t'achetais un jeu, 45 €, jeu neuf, PlayStation 1, t'es en bonne voie.
Ah, même plus. Le jeu neuf, à l'époque, c'était 60, hein. Déjà.
Sur PS2.
Sur PS2, ouais.
Sur PS1, c'était 45.
Mais je me rappelle, Xbox 360, t'arrivais avec tes 60 €, t'achetais ton FIFA, et puis t'étais...
Et voilà. Et puis t'allais te faire voir, quoi. Mais, tout ça pour vous dire que la Dreamcast, pour moi, ça incarnait le rêve. C'était la console japonaise par excellence, parce que vous savez, elle était très orientée marché japonais, la Dreamcast. Il y avait des franchises de jeux de combat comme King of Fighters, que c'est surtout les Japonais qui pratiquent. Il y avait des jeux comme ça, comme Panzer Dragoon ou des trucs comme ça. Enfin, c'était Sega, vous savez. C'était pour ma génération qui a grandi dans les années 90, le cool, c'était Sega. Mm-hmm. Nintendo, c'était pour les mioches. Ouais, et le cool, c'était Sonic.
T'es allé au Japon d'ailleurs?
J'ai jamais été au Japon et c'est un rêve sans cesse repoussé depuis que j'ai l'âge de 15 ans.
Parce qu'il y a un truc qui est super triste, c'est que leur magasin Sega, tu sais, il y en a deux là dans le quartier un peu genre gaming, là où il y a tous les comment on appelle ça, genre c'est des salons de jeux, genre je sais
salles de jeux, ouais.
Mais le store Sega, il a fermé à cause du Covid, puisque personne n'y allait. Et en fait, c'était super triste parce que le jour de la sortie, il y avait genre un monde pas possible dans les rues. Enfin, le jour de où ils ont fermé, et tous les employés se sont fait applaudir pendant des minutes et des minutes. Enfin, la scène. Moi, j'y suis allé au Japon et je me rappelle de ce quartier-là ultra animé. Et en fait, le Covid l'a tué, quoi, ce quartier. Genre, c'est horrible. Et vraiment, là, quand tu vois la vidéo, tu te dis genre c'est un patrimoine. Genre qui tombe en fait. Et il y en a deux stores Sega. Alors je préfère pas dire de bêtises. Je crois que c'est un des deux stores qui a fermé, mais il y a moyen que ce soit les deux. Mais je sais pas exactement. Faudra checker. Mais tu vois ça, rien que ça. Enfin c'est quoi, c'est Ikihabara. Ikihabara. Je crois.
Ouais, Ikihabara. Ouais.
Ouais. Et franchement, genre c'était d'une tristesse la vidéo. Je me suis senti tellement mal. En plus c'était pendant le Covid, donc tout le monde était déjà déprimé. Et je me suis dit que tu vois rien que d'y retourner et de pas pouvoir voir ça, il y avait un côté genre.
Ça enlève au pèlerinage.
Sega, c'est vraiment un patrimoine matériel et immatériel de l'humanité, quoi, pour moi. Franchement, hein, et Sonic Adventure, pareil, c'est un jeu qui me faisait rêver, quoi. Et comment dire, moi, quand j'ai joué à Rival Schools comme un porc, et je me disais trop, putain, mais il devrait trop faire un 2. Et quand j'ai lu dans un magazine que Rival Schools 2 arrivait et qu'il était sur Dreamcast, j'étais déprimé.
Parce que pour le coup, t'as fini par avoir la Dreamcast ou pas?
Ben ouais, j'ai fini par l'avoir des années après sa mort. En fait, mes amis ont fini par se cotiser pour mon anniversaire. C'était, je sais plus, mes 21 ans, quelque chose comme ça.
Ah oui.
Vraiment, ouais, vraiment longtemps après que la Dreamcast soit plus ou moins morte. Plutôt mes 20 ans, on va dire. Ouais, voilà, ou mes 19 ans. Et en gros, ils m'ont offert une Dreamcast qui était modifiée, donc une Dreamcast switchée. Vous savez, quand on mettait les puces, etc., quand on bidouillait les consoles pour avoir des versions gravées des jeux ou des versions japonaises. Et donc, ils m'ont offert une Dreamcast déjà switchée. Et là, vraiment, j'étais tellement heureux. Et ouais, parce que la Dreamcast, comme je vous disais, c'était une console ultra japonaise, c'était une console puissante, c'était une console trop en avance sur son temps. J'ai écrit un article sur Slate pour les 20 ans de l'anniversaire de la Dreamcast, où en gros, ce qu'il en ressort, c'est que la Dreamcast, elle était trop en avance sur son temps. Tu pouvais jouer en ligne à l'époque avec nos modems 56K là, et qui fait tu pouvais jouer en ligne à l'époque sur Dreamcast, c'était incroyable. T'avais un système de carte mémoire externe que tu mettais dans ta manette, etc. Qui marchait un peu comme un Tamagotchi. T'avais des mini-jeux dessus. Tu pouvais affronter tes amis sur ta manette. Enfin, c'était des visionnaires, les mecs. Et en gros, enfin, voilà, tout ça pour vous dire que si j'ai choisi Rival Schools 2, c'est parce que déjà, c'est une de mes séries de jeux préférées. Et que pour moi, ça incarne cette ère Dreamcast qui m'a fait rêver pendant des années et des années. Et finalement, vous savez, quand j'ai eu la Dreamcast, évidemment, je me suis immédiatement acheté Rival Schools 2 sur eBay, en version japonaise. Je me suis acheté Soul Calibur, Jet Set Radio, qui est peut-être le premier jeu en cel shading. Vous savez, le jeu de roller, vous voyez ?
Ouais, ouais.
Qui se passe encore au Japon, d'ailleurs, dans un truc ultra... Bon, bref, voilà. Et quand j'ai joué à Rival Schools, franchement, j'étais trop ému, quoi. J'étais trop, trop ému. Franchement, et donc, voilà, le jeu arrivait avec plein de nouveaux personnages. Il faisait avancer l'histoire. Il y avait des nouveaux coups. Les décors incroyables avec la technologie Dreamcast. Et puis, maintenant, il y avait des équipes de 3 personnages. Donc, tu pouvais déclencher une coopération à 2. Vous savez, la même qu'avant, attaque combo. Et tu pouvais déclencher une coopération à 3. Où vraiment, t'appuyais sur toutes les touches en même temps. Et là, tu déchaînais l'enfer sur ton adversaire. C'était incroyable. Il y avait un mode jeu de plateau. Il y avait un mode jeu de plateau dans la version japonaise que j'ai jamais pu jouer parce que je parle pas assez bien japonais. Et en gros, t'avais des pions, tu te déplaçais d'un truc à l'autre, t'avais des mini-jeux, des défis. Enfin, c'était un truc incroyable qui n'existait pas dans la version européenne. J'ai joué à Power Stone 2 pour la première fois aussi. Je sais pas si vous voyez ce que c'est.
Ça me dit rien.
Power Stone, c'est un jeu pareil de Capcom aussi. Où en fait, c'est l'ancêtre de Smash Bros. Voilà, c'est Smash Bros avant Smash Bros.
Okay.
T'as des personnages sur une arène en 3D qui se détruit avec le temps, qui change et qui est bourré de pièges. Et en fait, chaque personnage a ses propres skills. Tu dois frapper tes adversaires et tu dois récupérer. Il y a 3 Power Stones qui sont éparpillés sur la map. Et lorsque tu récupères les 3 Power Stones sans te faire frapper par tes adversaires, parce que si tu te fais smasher la gueule, tu recraftes tes Power Stones. Tu les perds. Lorsque tu arrives à récupérer les 3, tu peux déclencher une attaque spéciale qui ravage tout sur son passage et qui défonce tes adversaires et voilà. Et pareil, c'était un jeu que j'avais connu que grâce à la presse spécialisée, les trucs comme ça que je lisais abondamment à l'époque. Et voilà, tout ça pour vous dire que ouais, quand j'ai eu la Dreamcast, quand j'ai eu Rival Schools 2, c'était un grand moment d'émotion qui a pas duré très longtemps comme je vous disais parce que finalement j'ai pas beaucoup joué à ma Dreamcast, je l'ai foutu au placard très vite et je la ressentais de temps en temps, mais voilà, j'ai passé plus de temps à en rêver finalement qu'à y jouer et je trouvais que c'était une dimension intéressante à aborder du jeu vidéo. Celle où, voilà, quand on était gamin, c'était quelque chose qui avait une forme de magie et je pense que depuis que le jeu vidéo est devenu un divertissement de masse, beaucoup plus accessible, ce qui est une très bonne chose, hein, que ce soit accessible. Mais du coup, forcément, ça a perdu le côté un peu mystérieux que ça pouvait avoir quand on était gamin. Voilà.
C'est pour ça que les sorties des jeux qui sont pas annoncés, ça marche toujours mieux, tu sais. Genre, je me rappelle de la sortie de Apex de Electronic Arts. Tu sais, quand le jeu est sorti, tout le monde était là en mode
What?
C'est quoi ça? Genre, ouais, c'est quoi ça? Puis le jeu a explosé. Enfin, c'est, je crois que c'était c'est une des meilleures sorties de jeux vidéo qui est des derniers temps. Ils avaient un nombre de joueurs incroyable. Il y avait eu une com qui était, tu sais, qui était bien faite, mais légère. Tu vois, il y avait pas non plus. Enfin, tu sais, bon, tous les Twitchers, tous les streamers jouaient à ça. Mais quand même, tu vois, genre, ça restait genre, nous, on a fait notre petit jeu dans notre coin. Dites-nous ce que vous en pensez, tu vois. Ça faisait un peu ça, alors que dans les faits, bah non, bien sûr, le budget était bien plus énorme et puis etc. Mais
ouais. Bon, c'est incroyable. Moi, j'ai joué à la démo chez un pote. Ouais, graphiquement, c'est incroyable, c'est époustouflant. Hein.
Ouais. Et après, t'as quand même Nintendo. Je pense que c'est une des dernières, c'est un des derniers studios qui arrive quand même à garder, genre, ces petits secrets, tu vois. Genre, ils donnent au compte-gouttes, je pense, au Zelda Breath of the Wild, là, le nouveau. C'est limite, on n'a pas de news, tu vois. Genre,
Et Nintendo, au-delà de ça, ils ont gardé aussi, ils ont gardé leur esprit, je trouve. Là, honnêtement, moi, je suis un joueur PlayStation aujourd'hui, mais j'ai aucun problème à dire que Sony et que la PlayStation n'ont aucune personnalité. Ils ont aucune personnalité. Ah oui, il y a des franchises phares, Metal Gear, Crash Bandicoot, ce que vous voulez, mais à part le fait qu'ils se placent sur un créneau de marché qui est différent de celui de Xbox, qui n'a également aucune personnalité, les deux, pour moi, n'ont aucune
saveur.
Ouais, non, pas saveur, mais ouais, aucun. Non, mais ouais, c'est ça, aucune saveur, aucune spécificité. Là où Nintendo a une vraie putain d'identité.
C'est vrai,
notamment
ouais.
Dans leur capacité d'innovation. Les gars, ils sont trop forts.
Mais
depuis la Wii, ils ont compris que de toute façon, ils gagneraient jamais la course à l'armement. Ils gagneraient jamais la course au graphisme et à la puissance. Et du coup, ils créent des hardware de folie. Et ça date pas d'hier. Regardez, moi, quand j'étais petit, toujours chez mon cousin, avant de jouer à la SNES, on jouait à la NES et on jouait à Duck Hunt. Mais les gars, ils ont inventé le gun pour l'écran, mais avant tout le monde. Ouais. Ils ont inventé le gant. Vous vous souvenez ou pas? Ils avaient un gant également. Les gars, ils avaient un gant en mode Infinity Glove. À l'époque où les consoles, elles étaient pourraves, quoi, en termes de puissance. Mais les mecs, ils avaient déjà la vision. Regardez le jeu qu'ils ont fait, là. Nintendo Maker, là, avec les bouts de carton.
Ah oui.
Ouais.
C'est incroyable. C'est super créatif.
Même le Mario Kart d'un chez toi.
Alors ça, je trouve que c'est une carotte.
Moi, je l'achèterais pas. Mais Chris, il était hyper excité par ça.
Ouais, c'est vrai. bah, juste le côté innovant, quoi.
Ouais.
Ça fait renaître toute la nostalgie que t'avais quand t'étais enfant et tu te dis waouh. Moi, c'est un truc que j'ai toujours adoré, les voitures téléguidées ou télécommandées. Et je me dis, avoir ça plus l'univers de Nintendo, c'est juste le combo gagnant parfait. Ah. Non?
Mais attends, les mecs, ils ont inventé la voiture télécommandée. C'est quoi, là?
Avec une caméra. La GoPro sur la tête de Luigi, quoi.
Mais pour le coup, là, tu crées toi-même tes circuits Mario Kart, ouais. Tes petites pistes et tout. Enfin, il y a un truc intéressant, je pense.
Ouais, c'est vrai.
Ah, mais c'est ce que j'ai dit à Chris. J'ai dit, j'aurais eu ce jeu-là il y a 15 ans, j'étais fou,
ouais.
Tu vois.
Ouais, c'est
ah,
ça.
Ouais.
Ah, j'aurais été fou, tu vois. Ah ouais, c'est clair.
Les accessoires, ça a toujours été la grande force de Nintendo. Et quand j'ai eu la Game Boy, j'avais la Game Boy. J'avais la loupe. Il y avait une loupe.
Oui.
Et en plus, c'était lampe. Donc, c'était une loupe-lampe. J'avais la loupe-lampe Game Boy. J'avais la sacoche officielle Game Boy. J'avais le Game Boy Printer et la Game Boy Caméra. Mais attendez.
Il a ramené.
Je rigole pas. Non, mais attends. Yann, je l'ai pas ramené. Elle est juste chez moi. Elle est juste restée chez moi. Attends, Théma. J'ai le Game Boy Caméra, qui était en gros la webcam, avant que la webcam soit
ouais.
Avec la fonction selfie. Là, t'étais à... Et là, tu pouvais prendre des selfies.
Pour le coup, là, François nous montre à la caméra tous ses objets. C'est incroyable.
Le Game Boy Printer.
Attends, montre.
On dirait le truc, genre, tu fais tes feuilles de paye avec ça, non?
Ça servait à quoi? Je savais même pas que ça existait.
Tu pouvais. Alors, je vous explique, les mecs. Ils ont inventé Instagram. C'est-à-dire que le Game Boy Camera, donc c'était un appareil photo, comme vous pouvez imaginer.
Ouais.
Vous pouvez prendre des photos. Et ensuite, vous pouviez jouer avec, genre rajouter des cadres autour, rajouter des petits dessins, des petites incrustations, vous savez, comme sur Insta ou Snapchat. Et ensuite, vous pouviez donc, grâce à un câble et à cette truc-là, imprimer vos photos. Et c'était imprimé sur un papier que je possède encore, que vous pouvez voir dedans, là, il est dedans. C'est du papier, comment on appelle ça? Pellicola.
Okay.
Vous savez, les pellicola, c'est les photomatons japonais, vous savez, qui vous impriment plusieurs photos, vous avez plusieurs poses, et vous pouvez ensuite, c'est du papier autocollant. Donc vous pouvez enlever le truc, et vous pouvez coller ensuite où vous voulez vos petites photos. C'est une tradition japonaise. Et donc moi, comme j'étais un peu un enfant gâté, j'avais le Game Boy Printer. Et du coup, pendant le premier confinement, j'ai ressorti le Game Boy Printer. Le truc fonctionne parfaitement. Ça fait 25 ans que ce truc-là n'a pas fonctionné. Après, j'en ai pris grand soin. Mais le truc fonctionne parfaitement. Et vous savez, c'est quoi le génie Nintendo? C'est une imprimante thermique. C'est-à-dire que c'est pas de l'encre. C'est la même technologie qui permet de faire des tickets de caisse. Fait que vous n'êtes jamais à court d'encre, vous n'avez jamais besoin de racheter des cartouches. Ça fonctionne uniquement à la chaleur. Et c'est simple, la Game Boy Printer, elle marche encore. Et je raconte tout ça pour vous dire que, Nintendo...
Ah, tout innovant, ouais.
Non, mais ils ont toujours été innovants de fou.
Et mais même dans leur communication, en fait, quand ils pensent, eux, c'était les seuls qui, avec le Covid et la fermeture de tous les salons, tous les trucs comme ça, ils en avaient rien à foutre. Et aujourd'hui, plein de compagnies se sont mis à faire la même chose. Ils font leur petit point presse tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, ça dépend. C'est vrai que pendant le Covid, Nintendo, ils ont accéléré un peu les choses. Normalement, c'était un peu tous les trois mois. Et pendant le Covid, je sais pas trop pourquoi, ça se retrouvait tous les mois. Voire parfois, il y avait juste une vidéo qui expliquait un jeu. Moi, je trouvais ça trop bien tous les trois mois. Je pense que plein de gens se connectaient pour voir les news de Nintendo, même si... t'avais aucune console. Enfin, c'est trop bizarre, mais je regardais ça même en me disant, même si j'achète rien, je trouve ça cool d'avoir genre un espèce de point presse news de voilà sur quoi on travaille, voilà ce qui va sortir dans les prochains mois, et puis profitez bien et ciao.
C'est ta preuve d'un peu plus de transparence, quoi.
Ouais. Et eux, ils avaient fait ça justement pour se détacher des salons, mais avant même, ils aimaient juste pas l'influence qu'avaient les salons. C'est-à-dire qu'ils se sentaient obligés de devoir livrer quelque chose à un salon. alors que bah ils préfèrent prendre leur temps et genre tu sais genre juste dire bah on en a là du développement et ce qui est d'ailleurs et eux ont pris le risque de plus être présents dans les salons pour cette raison-là, là où plein d'autres studios ont préféré continuer à avoir leur présence et à sortir des jeux vidéo pas finis. Tu vois,
c'est un autre truc. Après, je suis vraiment vieux con quand je dis ça, mais c'est un autre truc que je regrette par rapport aux jeux vidéo quand j'étais plus jeune, c'est qu'il y a une forme d'infobésité, il y a une forme de surplus, de saturation en fait de l'information. Bah regarde, il y a qu'à voir Cyberpunk, comment ils sont cassés la gueule, ils n'avaient qu'à pas authentiser quoi. Et c'est vrai qu'avant, ben, je te dis, à part la presse écrite, ben t'avais pas grand chose et je parlais de Rivals Couch 2 et de la Dreamcast, ben ouais c'est ça, t'avais plus le temps de rêver à l'époque du jeu que tu allais posséder quoi.
Alors le troisième et dernier jeu de ton top, c'était Final Fantasy X, disponible à l'époque sur PS2. Le jeu était sorti en 2002 en Europe et c'est le premier jeu de la série à être dispo sur PlayStation 2.
Tout à fait, ouais. Final Fantasy X. Alors, j'ai découvert la saga Final Fantasy avec Final Fantasy VIII. Comme souvent, je suis très rétro dans le jeu vidéo et du coup, je venais d'avoir la PS2 et je me suis dit tiens, et si je me mettais à un jeu PS1 Final Fantasy VIII. Non, mais en gros, j'avais pas beaucoup de jeux, en fait, sur PS2. Je venais d'avoir la PS2, donc j'avais genre un ou deux jeux. Et j'ai un pote qui me prête ce jeu PS1. Enfin, qui me le donne, en fait, parce qu'on lui a donné ce jeu et il a pas de console. et du coup, moi, ça m'attirait pas du tout. Les RPG, je connaissais pas du tout. Ouais, c'est quoi? C'est du tour par tour. Il y a des chiffres, des statistiques, tout ça. Moi, j'aimais pas trop ce genre de jeu-là à l'époque. Et puis bon, je m'ennuyais. Et du coup, par curiosité, je mets FF8 dans la console. Puisque la PS2, c'était la belle époque aussi où les consoles étaient rétro-compatibles. Et donc, je fous FF8 dedans par curiosité et je regarde ce qui se passe. Et bah là, j'ai pris une claque, quoi. Je sais pas si vous avez vu l'intro de FF8. Dès là, rien que l'intro, elle te met une énorme baffe dans la gueule. Et puis ensuite, j'ai été totalement absorbé par l'histoire, le système de combat, les musiques, les graphismes somptueux pour l'époque, les personnages, l'écriture, tout ce que vous voulez, l'univers en fait. C'était un univers dans lequel on s'immerge totalement et je pouvais rester des heures à jouer à FF8 et à perdre une forme de notion du temps. Et je suis resté un grand grand fan de RPG. Et en fait, mon itinéraire de gamer, on va dire, en tant que joueur de RPG, ne consiste, depuis FF8, uniquement que à tenter de reproduire les sensations que j'ai ressenties en jouant à FF8. Voilà, je ne fais que courir après cette première dose, on va dire, comme les drogués. Il paraît que quand t'es un drogué, tu la seule chose que tu recherches en te redroguant, c'est de retrouver les sensations de ta première fonce D. La première fonce D agréable. Et le problème, c'est que plus tu te drogues, moins ça te fait d'effet. Et donc, pour retrouver ta première fonce D, bah, faut augmenter les doses. Donc, ma vie depuis FF8, c'est de tenter de retrouver les sensations d'FF8. Et je suis devenu fan de FF, j'ai joué à FF6, en émulation. J'ai commencé par le 8, du coup, j'ai fait le 7, après j'ai fait le 10, après j'ai fait le 6 en émulation, et puis ensuite j'ai repris la chronologie. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai choisi FF10 parce que c'est le dernier, c'est le seul jeu qui a réussi à... C'est le seul jeu et c'est le dernier qui a réussi à me reproduire la fonce D que j'ai ressenti en jouant à FF8. Vous y avez joué ?
Non, moi j'ai jamais joué. Mais c'est celui qui est ressorti là il y a pas longtemps, c'est ça ?
Tout à fait. Il a fait l'objet d'un remaster FF10 sur PS4.
Ok. Mais t'as pu jouer au remaster du coup ?
J'ai joué au remaster également. En fait, je suis en train de le faire avec un de mes meilleurs potes. On est en train de le faire à deux. Le problème, c'est qu'avec la pandémie et tout le reste, on n'arrive pas à y jouer très souvent puisqu'il faut on le fait ensemble du coup sur la même console. Et du coup, ben moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on y joue vraiment, qu'on marathonne le jeu pour qu'il puisse réellement se rentrer dans l'histoire. Le problème, c'est qu'on y joue une fois tous les 3 mois, donc on arrive, on reprend la manette et le mec, il a oublié ce qui se passait, et il est pas dedans. Et ça me fait chier parce qu'il faut être dedans émotionnellement, en fait. Mais c'est pas grave. Mais en gros, bon voilà, FF10, c'est un jeu qui se passe dans un monde qui s'appelle Spira. Et en gros, ce qui se passe, c'est que c'est un monde qui ressemble beaucoup à c'est une forme dans l'esthétique, ça ressemble à l'Asie. C'est un mélange d'Asie et d'Inde dans les tenues très colorées, etc. C'est assez bizarre. Et en gros, les humains vivent dans une société qui est entièrement religieuse. Tout le monde suit la même religion qui s'appelle Yevon. Et en fait, la technologie a été bannie de cet univers qui pourtant est magnifique, mm-hmm. parce que il y a un monstre qui s'appelle Sin, péché en anglais quoi. Il s'appelle Sin. C'est une sorte d'immense monstre qui est invincible en fait. Et qui ravage en fait les villages, les villes, et qui tue des humains par milliers en fait dès qu'il apparaît. Il apparaît tous les 1000 ans. Et les seules personnes qui sont capables d'arrêter Sin, ce sont les invoqueurs. Les invoqueurs, c'est des espèces de prêtres qui ont des pouvoirs magiques d'invocation, qui peuvent invoquer des créatures mystiques, des chimères. Et en gros, un invoqueur doit faire un long pèlerinage dans tout Spira pour acquérir toutes les chimères les unes après les autres, en priant et en une sorte d'élévation spirituelle. Et à la fin, le but de l'invoqueur, c'est d'acquérir l'ultime chimère, qui en gros est une invocation ultime qui permet de tuer Sin et de ramener la paix dans le monde jusqu'à la prochaine fois où Sin apparaîtra. Parce qu'en fait, Sin réapparaît toujours. Et donc, le héros, c'est un personnage qui vit dans une société, dans une cité ultra technologique qui s'appelle Zanarkand. Et un jour, alors c'est une star du sport national de Zanarkand, qui est le Blitzball, qui est une forme de water polo si tu veux ultra technologique. Et en fait, donc c'est un peu le Zidane de Zanarkand si tu veux. Et en fait, un jour, il est en plein match et là t'as Sin qui arrive et qui ravage Zanarkand, qui aspire le héros donc Tidus. Et qui le recrache dans cet univers qu'il connaît pas et qui s'appelle Spira. Et donc le mec il se réveille et tout, il est là et il rencontre des habitants et il dit bah les mecs, je sais pas comment je suis arrivé là, je viens de Zanarkand, c'est par où pour rentrer chez moi. Et les mecs ils le regardent, ils font mais Zanarkand mec, ça c'est une cité qui a été ravagée il y a 1000 ans par Sin. Zanarkand elle n'existe plus, elle est en ruine ta Zanarkand, tu peux pas venir de Zanarkand, t'es pas un mec du passé, tu voyages pas dans le temps. Et le mec il est en mode Donc, en fait, je rentrerai jamais chez moi et tous les gens que je connaissais sont morts il y a plus de 1000 ans et je suis où et tout le monde croit que je suis fou. Et du coup, il décide de devenir le garde du corps d'une invoqueuse qui s'appelle Yuna. Parce qu'en fait, le pèlerinage des invoqueurs est évidemment truffé d'embûches. Et du coup, les invoqueurs ont des gardes du corps qui veillent sur eux, qui s'appellent les gardiens. Et du coup, il devient gardien de Yuna. Et à travers les yeux de ce personnage, donc, qui accompagne Yuna, on découvre tout Spira, qui est un monde, en gros, très poétique et en même temps hanté par la mort. Puisqu'en fait, tu fais ton pèlerinage, tu sais très bien, en fait, que même si tu arrives à tuer Sin, Sin reviendra en fait. C'est une paix qui n'est jamais que temporaire. Et donc, si vous voulez, c'est toute la mystique de FF10, c'est que pendant tout le jeu, il y a ce truc, il y a cette espèce de d'ambiance un peu angoissante, pas angoissante, mais un peu pesante, comme si chaque moment de beauté n'était que vraiment un moment qu'on arrivait à arracher à l'angoisse de la mort, comme si c'était juste un petit moment de répit, mais que ça allait très vite redevenir la hesse. et c'est un jeu vraiment magnifique graphiquement évidemment, au niveau des musiques, puisque c'est le dernier jeu dont les musiques ont été composées par Nobuo Uematsu, qui est le compositeur historique de Final Fantasy, qui a fait toutes les musiques de Final Fantasy et donc toutes les musiques les plus connues sur FF7, tout ça c'est lui qui les a faites, FF8, tout ça, tout ce que vous voulez. Et en fait, je vous spoil ou pas?
Ouais carrément.
Bon, en fait, à la fin, le mec arrive aux ruines de Zanarkand et donc il découvre que ce qu'on lui avait dit était bel et bien vrai. Zanarkand a été réduite en ruine et il rentrera jamais chez lui. Et en fait, on lui fait une révélation à ce moment-là, c'est que l'invoqueur, lorsqu'il invoque l'ultime chimère, il tue Sin, mais il perd également la vie. Et évidemment, le héros est tombé amoureux de Yuna, l'invoqueuse, pendant son pèlerinage, à force de d'épreuves ensemble, etc. Yuna a une personnalité extrêmement attachante, les personnages sont extrêmement bien écrits. Et évidemment, ben c'est le moment qui te brise le cœur, quoi, dans le jeu. Mmh. Et alors, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est un peu long. En gros, à la fin du jeu, Tidus, donc le héros, découvre qu'en fait, non seulement il rentrera jamais chez lui, mais en fait, il est déjà mort. Comme dans le sixième sens. Il découvre qu'il est déjà mort et qu'en fait, ce n'est qu'une âme errante et qu'en fait, il appartient au monde de l'au-delà et il devrait y retourner, en fait. Et la scène finale, si vous voulez, c'est une scène vraiment poignante où, en gros, Yuna a réussi à évoquer, enfin à tuer Sin finalement, mais sans invoquer l'ultime chimère, parce qu'ils ont décidé de se révolter contre ce cycle infernal et de trouver d'autres moyens de tuer Sin. Et le problème, c'est que si tu tues Sin, toutes les âmes, Sin en fait il est lié à l'au-delà, et toutes les âmes qui sont sur Terre et qui continuent de errer sur Terre, enfin sur Spira, elles disparaissent en même temps que Sin. Et du coup, le héros le sait et Tidus le sait, et au moment où Sin meurt, il y a cette scène où il arrive et il dit à tout le monde, bon bah les gars, je dois y aller. Et en fait, c'est un secret c'était un secret entre lui et Yuna, en fait. Les autres savaient pas que c'était un fantôme. Et du coup, le mec dit, bon bah écoute Yuna, je dois partir. Et la meuf est en mode, quoi? Attends, comment ça? On veut pas trouver une solution, je sais pas quoi. Et en gros, le mec disparaît et c'est la première fois où j'ai pleuré devant un jeu vidéo. Voilà pourquoi je voulais vous donner un truc. Désolé, c'est un peu long, tout ça pour ça.
Non, mais c'était important d'avoir du contexte.
Mais c'est là que j'ai
compris. Moi, j'ai frissonné. Hein.
C'est là que j'ai compris que le jeu vidéo, c'était un... Enfin, je savais déjà, évidemment, que c'était un truc qui pouvait te donner des émotions très fortes. Mais la particularité de FF10, si vous voulez, c'est qu'il a été très décrié au moment de sa sortie. Parce que contrairement à tous les autres FF précédents qui avaient donné une grande liberté dans la façon de faire l'aventure, c'était un jeu extrêmement linéaire. Mmh. Il y avait une dimension exploration qui était extrêmement réduite. Et pour un RPG, c'est un peu un problème, quoi. Parce qu'en gros, t'avais un long chemin à limite que tu devais suivre, quoi. Mmh. Et les scénaristes ont justifié ça en disant, en fait, on voulait vraiment que les gens se focalisent sur l'histoire. Et je trouve que ça a marché, en fait. Parce que le fait que t'avais tout le temps la tête dans le guidon, c'était combat, dialogue, histoire, cinématique, combat, dialogue, histoire, cinématique. T'avais pas le temps de te perdre sur la map ou de faire des quêtes annexes ou tout ce que tu veux. T'étais vraiment plongé dans cet univers. C'était presque un film interactif, si vous voulez. Avant qu'on parle de films interactifs comme Détroit, Becoming Human ou trucs comme ça, vous voyez. Au moment du final, ce jeu, je l'ai fait en marathon. Pareil, je l'ai fait en marathon avec un pote à moi à l'époque. On était jeunes, en mode, vous savez, c'était les vacances, c'était les scolaires, en mode 2 semaines de vacances. Mm-hmm. Donc pendant une semaine, t'es là, tu joues de 18h à 3h du mat, tu te réveilles à
10h. Coca Kinder Bueno.
De fou. et donc on l'a vraiment comme un speedrun, si vous voulez. Et à la fin, vraiment, c'est la deuxième fois de ma... La première fois que j'ai failli pleurer devant un quelque chose, c'était Titanic. J'avais 10 ans. J'ai failli pleurer, mais je me suis retenu, mais c'était vraiment à ça après. Et la deuxième fois où vraiment j'ai versé une larme, tout médium confondu, livre, série, film, ce que vous voulez, la deuxième fois, du coup, c'était sur FF10. Et donc maintenant, comme je vous disais, ma vie, ça consiste à... j'aime beaucoup les RPG comme Persona 3, Persona 4, tout ça. J'aime bien la série des personnages, j'aime bien Dragon Quest, j'aime bien tous ces trucs-là. Mais même les nouveaux FF, hein, je les ai essayés. Mais je passe mon temps à courir après FF8 et FF10. Et voilà. Et la troisième et dernière fois où j'ai pleuré devant un jeu vidéo, enfin deuxième fois du coup pour un jeu vidéo, c'était le fameux Zelda Link's Awakening que je possédais sur Game Boy.
Non, moi j'ai pleuré sur Breath of the Wild.
Ah, ça m'étonne pas, il est magnifique. Moi j'y ai joué un petit peu, il est magnifique. T'as pleuré à la fin?
Non, trois fois. c'est parce que les histoires elles sont touchantes avec les héros. À chaque fois, tu sais, t'es pris, tu te dis putain, merde, bah. En fait, ils te font tout en quelques instants, ils te racontent tout le passé du mec. puis après ils le font mourir. Et ils te font ça trois fois de suite. Et puis du coup, moi, les trois fois, je suis genre, j'étais le connard, quoi. Ça a marché. Trois sur trois.
C'est beau, c'est beau. Franchement, Zelda, le Breath of the Wild, là, il arrive à créer la poésie, mais...
Même Link's Awakening, c'est vrai que genre...
Il est magnifique, ce jeu.
Ouais.
Et si tu veux, Link's Awakening, c'était mon premier jeu vidéo ever, que je possédais à moi, je veux dire, sur Game Boy noir et blanc, ça, je vous l'avais dit. Et en fait, j'ai jamais réussi à le finir parce que déjà, j'étais trop petit, j'avais genre 6 ans, 5 ans. J'étais coincé au deuxième donjon. Je suis resté coincé au deuxième donjon. Et en plus, j'avais un problème de cartouche. C'est-à-dire qu'elle prenait la poussière, je sais pas ce qui se passait, elle tombait, elle prenait des chocs. Et du coup, je perdais ma sauvegarde. J'ai perdu deux ou trois fois ma sauvegarde, je recommençais à zéro. Le Link's Awakening.
Et t'es arrivé à ton deuxième donjon et à nouveau, t'étais bloqué.
Ouais. Et du coup, ce que j'ai fait, en fait, quand j'ai commencé à émuler, longtemps après l'émulation, en fait, j'émulais déjà depuis des années, en fait. J'avais 20 ans quand j'ai refait Link's Awakening. Je me suis dit, allez, et si j'essayais de finir Link's Awakening pour de bon? Et du coup, voilà, j'arrive sur l'émulateur, tac, tac, tac. Tu peux sauvegarder à n'importe quelle seconde, microseconde du jeu, donc c'est très pratique. C'est des sauvegardes d'émulateur et non pas des sauvegardes du jeu. Très pratique pour les donjons. Tout ça pour vous dire que le jour où j'ai enfin réussi à passer le second donjon et ensuite quand j'ai fini Link's Awakening, qui était un jeu du coup qui m'avait tenu en haleine entre guillemets pendant plus de 15 ans, là j'ai versé une petite larme. J'ai versé une petite larme. Au moment où la chanson du poisson rêve,
ouais.
Tu te rappelles?
Bah, j'ai joué il y a un an, moi. J'ai joué sur Switch, là. Donc, ouais. Le jeu est super bien fait, super beau. Enfin...
Et je te parlais tout à l'heure de l'importance de la musique dans le jeu. Ben, elle est plus importante qu'à chaque donjon, tu récupères un... Exactement. Tu récupères un instrument différent. Et à la fin du jeu, tu réveilles le poisson rêve en jouant la symphonie du poisson rêve. Et du coup, pour la première fois dans le jeu, tu entends tous les instruments mis bout à bout qui jouent tous ensemble la symphonie du poisson rêve. Et là... C'était à la fois des souvenirs d'enfance qui remontaient, plus des émotions nouvelles. Enfin, c'était incroyable, quoi.
Mais puis il y a la décision, parce qu'en fait, en fonction, tu sais, genre, t'es censé genre tuer le poisson rêve pour pouvoir sortir du rêve, mais en même temps, tu tues tout ce qu'il y a sur l'île.
Et c'est un principe qui est sensiblement similaire à celui de FF10, tu vois.
J'allais le mentionner, ouais, j'y pensais.
Ouais. Ah. Et la musique de FF10. C'est pas possible, c'est incroyable. Je sais pas si vous avez déjà joué à FF.
Moi j'ai jamais joué, enfin j'avais pas de PlayStation à part la PlayStation 4 et c'est juste pour FIFA, donc je suis pas allé très loin.
Bah je suis un peu dans le même cas. D'abord j'étais plutôt sur Nintendo et ensuite je suis passé sur Xbox. Du coup j'ai pas du tout l'occasion d'y jouer, mais je vois très bien la série et le côté culte qu'elle a, quoi.
Nobuo Uematsu, donc qui est le compositeur historique des musiques de FF, c'est un mec qui était très visionnaire parce qu'en fait, dès l'époque de la Super Nintendo, il savait que on pouvait créer de la vraie musique, comme pour le cinéma, sur du jeu vidéo. À l'époque où les mecs qui composaient sur Super Nintendo, ils étaient en mode, bon, on s'en fout, c'est la musique de jeu, quoi. Et lui, il a compris très vite que, ben non, on peut faire des trucs de fou. Et il était compositeur, du coup, dès le premier FF, sur NES, il a continué, etc. Et sur FF6, qui est le dernier FF de SNES, l'ouverture de FF6 est restée comme un des thèmes les plus connus de la série parce que c'était un truc symphonique complètement dingue pour l'époque, avec des orgues en mode Beethoven, des orgues de malade et tout. Enfin, c'était une dinguerie. Et donc, ce mec-là est devenu tellement connu et culte que maintenant, il donne des concerts. Vous savez, comme Ennio Morricone.
Oui, OK.
Donc il donne des concerts à Paris, à Tokyo, aux États-Unis, partout. L'an dernier, par exemple, il y avait un concert Final Fantasy symphonique. Donc le mec, il arrive et tout, et il joue ses musiques de Final Fantasy. Et Final Fantasy X, c'est donc le dernier jeu sur lequel il a composé les musiques. Et donc, je vous laisse imaginer, venant d'un compositeur de cette qualité, les thèmes musicaux de FF10, et notamment le thème de la fin. C'était incroyable. Et pendant des années, sur mon MP3, parce qu'à l'époque j'avais un baladeur MP3, et ben, j'ai téléchargé des musiques de FF et je les écoutais comme ça chez moi ou en bossant. Alors les versions piano, les versions symphoniques, les versions 8 bits, j'avais tout quoi. C'était l'époque où j'écoutais les OST de manga et des OST de FF, voilà.
Ça m'a fait ça, mais plus avec Zelda du coup, vu que j'ai pas du tout joué à FF. Ouais. J'ai mes OST Zelda culte.
Ouais.
C'est quoi ton favori, Chris?
Waouh, c'est dur à dire comme ça, mais il y a sûrement la musique d'intro de Zelda Ocarina of Time. Ouais.
Ouais.
Et peut-être aussi le chant des fées, je dirais. Ouais.
C'est sur quoi, le chant des fées? C'est sur quel jeu?
Ocarina of Time. Ocarina of Time, les deux, ouais.
D'accord. J'ai joué un petit peu en émulation, mais je suis pas allé très loin. Mon seul Zelda, qui restera du coup mon Zelda de cœur, c'est vraiment Link's Awakening, quoi.
Moi, j'en ai un, mais je crois que c'est vraiment le plus underground. Apparemment, genre, c'est vraiment pas le meilleur, mais c'est Minish Cap. Et
il était sur Game Boy, non?
Parce que ouais, sur Game Boy, et j'avais passé un temps fou, en fait, dessus. Et je sais pas, les mécaniques étaient vraiment intéressantes. Tu pouvais devenir tout petit, tout grand, puis le jeu était quand même un peu complexe, quoi. C'est genre plus complexe que un Link's Awakening, même si Link's Awakening, bah, c'est pour l'époque, c'était énorme.
C'est quoi vos musiques de jeux vidéo préférées en règle générale, sans parler de FF, de Zelda ou quoi que ce soit, mais dans les jeux vidéo en général, vous avez des musiques comme ça qui vous ont complètement matrixé?
Smash Bros.
Laquelle?
Le thème d'intro de tous les Smash Bros en général, il est incroyable.
Ok.
Mais après, ouais, non, Zelda, moi j'ai ma playlist Spotify avec mes petites chansons de Zelda, et puis genre, c'est parti, tu vois.
Ouais.
Mais...
Et toi, Chris?
Bah, j'aurais dit Zelda aussi en premier. Et puis là, récemment, je me suis pris, pendant le premier confinement, The Last of Us. Et ouais, la musique m'a vraiment, vraiment marqué, quoi. Tout au long de l'aventure, il y a quelque chose, un fil conducteur assez impressionnant.
D'accord. J'ai commencé Last of Us, mais j'y ai pas joué non plus très longtemps, malheureusement. Last of Us, c'était déjà l'époque où je commençais les jeux, je les finissais pas, tout ça, bref, c'est pas...
Assez dur, ça. Il y a un truc tellement frustrant dans le fait de commencer et pas finir un jeu. Ouais, je comprends.
T'as pas le temps, tu sais. Ouais. À partir de la PS3, moi, c'était ça.
Après, moi, j'ai une musique, mais c'est pas nécessairement dans les jeux vidéo. Mais dernièrement, je jouais tellement de jeux vidéo là-dessus, mais Star Wars, mais à chaque fois qu'il y a genre trois notes, moi, je deviens fou, en fait. Alors,
pas Star Wars, mec, parce que
Non, mais là, ouais, mais sauf qu'ils ont mis Battlefront gratuit, là. Je lance Battlefront, le jeu aura, même si c'était la plus grosse pourriture, mais genre, juste l'intro, t'as Star Wars, tu peux jouer un Jedi, t'as des musiques, je suis là, genre.
Mais c'est
moi, ça me va.
C'est le thème de Star Wars. Tu vois ce que
ouais, ouais, mais je sais. Mais genre, quand tu le mets dans les jeux vidéo, mais il y a un truc encore plus, tu vois. Même là, ils ont annoncé le prochain jeu vidéo, là, Star Wars. Puis genre, ils montrent aucune image. Ils ont mis trois musiques, prochain jeu fait par ce studio-là. Puis j'étais genre...
Magnifique.
C'est genre, bon, mon corps entier est frissonné, tu vois. Il y a rien. Il y a rien du tout. Il y a aucun contenu. Mais je sais pas. Il y a quelque chose.
Pendant très longtemps, pour repartir sur les musiques... Pendant très longtemps, je pensais que le thème de Zelda, qu'on entend tout du long, dans Link's Awakening, je pensais que c'était le thème de Link's Awakening et que les autres Zelda avaient pas cette musique-là. Pour moi, c'était la musique de Link's Awakening. Quand je jouais à Smash Bros, par exemple, et que...
Le thème d'Hyrule, là, c'est ça?
Voilà, le thème d'Hyrule. Tin, tin,
ouais.
Tin, 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 tin. Et ben, je disais, ben, c'est la musique de Link's Awakening, ça! Donc ouais, mais je suis un gros fan de musique de jeux vidéo, tout ça pour dire. Et
tu serais quoi pour le coup tes favorites à toi?
Bah FF10, comme je vous disais, vraiment. Je sais pas si vous allez mettre des inserts ou pas dans le podcast, des trucs comme ça, parce que c'est vrai qu'avec vous risquez peut-être de vous faire striker, je sais pas. Mais FF10, c'est incroyable. DBZ2, comme je vous disais, et puis Streets of Rage. Vraiment, Streets of Rage, c'est incroyable, quoi. C'est la base. En termes de musique, c'est la base. Et c'est aussi un des jeux qui m'a le plus marqué, mais que j'ai jamais possédé, quoi. c'est comme DBZ2. J'ai jamais eu le jeu.
C'est un peu comme moi avec Halo.
Ouais.
Halo, j'étais toujours chez un pote pour y jouer, mais genre, j'étais addict à Halo. Genre, à chaque fois, j'allais chez lui, puis je passais, les après-mêmes, Coca, Kinder Bueno, et puis c'était parti, tu vois. Ça a duré 4-5 heures, et je sais pas.
Il y a des jeux comme ça, hein, il y a des jeux que t'as toujours l'impression que c'est le truc inaccessible et que, parce que tu les as jamais possédés, ils auront toujours cette part de, tu vois, de rêve, quoi.
Ah, parce que, tu pouvais que y penser, parce que tu l'avais pas, donc tu pouvais pas y jouer, donc tu faisais que y penser, tu vois. T'étais là en mode, qu'est-ce que je pourrais faire?
Ouais, c'est dingue. Et quand ils jouent a posteriori, tu te dis, bon, en fait, c'était pas si cool que ça. Quand je rejoue à des jeux de Dreamcast, je fais, Ouais. En fait, elle était pas si puissante que ça. Mais à l'époque, dans nos yeux, c'était « Oh mon Dieu, c'est incroyable
ouais. ».
Ouais.
Et pour le coup, tu joues à quoi comme jeu en ce moment, François ?
Ah ben, juste avant d'être avec vous, je jouais à la démo sur PS4 de Captain Tsubasa Rise of the New Champions.
Ok, ça donne quoi ?
Eh ben c'est pas mal du tout, hein. C'est très, ils arrivent vraiment à retranscrire le dynamisme et le côté un peu épique du manga. Faut savoir que je suis également un immense fan de Captain Tsubasa. Ça par contre j'ai un peu arrêté. Contrairement à DBZ où voilà c'est for life, Captain Tsubasa, ça, je me suis un peu arrêté au collège. Mais
Olivier Tom, pour les personnes non initiées qui ne savent pas de quoi on parle.
Et il faut savoir que grâce à l'émulation, j'ai énormément joué à un jeu sur SNES de Captain Tsubasa qui s'appelait Captain Tsubasa 5, Captain Tsubasa 5, qui était excellent. En fait, c'était une traduction de fan. Il y avait des mecs qui avaient pris la ROM SNES Captain Tsubasa japonaise okay. et qui avaient traduit les textes à l'écran. Donc c'était une fausse localisation. C'était un fan sub de jeux vidéo. C'était ça aussi l'émulation qui était incroyable. Et donc donc j'avais pu jouer. C'est comme ça aussi que je jouais à Yu-Gi-Oh sur GBA par exemple. Enfin sur émulateur GBA. Et donc en fait j'ai joué à Captain Tsubasa 5 pendant des années. Et bref voilà tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup les jeux Captain Tsubasa. Et donc là je me suis dit tiens vas-y ça vaut le coup d'essayer et tout la démo. Et c'est très sympa. Ça ressemble un peu à Captain Tsubasa 5 parce que c'est un mélange de jeux en temps réel, de foot en temps réel et de RPG, donc c'est assez marrant avec les super coups, les super tirs, etc. C'est assez cool. Donc je joue à ça, je joue toujours à Hearthstone qui est un jeu de cartes à la Magic the Gathering développé par Blizzard que je joue sur téléphone.
Un gouffre à argent,
mais j'ai réussi quand même à éviter un peu le piège. J'ai mis un peu de thune dedans. Et en parlant de gouffre à argent, l'autre jeu auquel je joue en ce moment, c'est Genshin Impact.
J'étais sûr. J'ai pas osé en parler depuis le début, mais je me suis dit, ouais, il va nous parler de Genshin Impact à un moment, c'est sûr.
Fun fact. J'ai un pote aussi qui est un meilleur gamer que moi, dans le sens où c'est le genre de mec, vous savez, qui a des étagères. Vous savez, les étagères avec les figurines et les éditions collector. Lui, il a ça.
Et les 48 000 jeux.
Voilà, moi j'ai pas ça. J'ai beaucoup de jeux, j'ai des étagères là, mais j'ai pas la bibliothèque avec la collection, les mangas, les artbooks, etc. Moi j'ai pas ça. Lui il a ça. Et c'est vraiment un hardcore gamer lui. Enfin, quand il joue à un jeu, il le platine systématiquement. Vraiment, c'est un fou. Et donc ce mec là, je le connais depuis le lycée maintenant et on a des goûts très similaires, notamment sur les RPG. Et le Japon, tout ça. Et bref, j'ai vu Genshin, j'ai fait, ah ouais, ça c'est pour lui, tu vois. C'est un jeu très, très japonisant. Même si c'est un jeu chinois. Et j'ai fait, mec, tu veux pas te mettre à Genshin Impact? Comme ça, on y joue ensemble et tout. Ça peut être sympa. Je pense que c'est un jeu qui te plairait. Il m'a dit, non, écoute, c'est un jeu gachapon. Les gachas, je sais que quand je m'y mets et que je suis à fond dedans, je mets des thunes dedans et après, je m'arrête plus et c'est horrible. J'écoute comme tu veux. 3 semaines après, il me fait « Bon, écoute, je m'y suis mis. »
C'est fini.
2 mois après, il me dit « Bon, écoute, j'ai foutu 300 euros dedans.
» Mais t'avais jamais joué à un jeu sur portable? Bah, les Gachapon aussi, c'est genre Summoner's War.
Non.
T'avais jamais joué? Mais moi, ce jeu-là, non, c'était pas possible, en fait. Mais c'est pour ça que Genshin, j'y toucherai jamais. C'est que moi, pareil, quand il y a genre ce genre de truc de rareté, de monstre, etc. Mais laisse tomber, quoi. Genre, sur Summoner's War, il y avait une chance d'avoir... ce qu'ils appelaient des monstres Dark and Light, c'était des trucs que tu pouvais invoquer quasiment jamais. Puis t'avais 0,0035% de chance d'avoir un 5 étoiles. Puis j'en avais eu 2. En fait, mon compte au final, c'était impossible d'arrêter. Et j'avais fini par vendre mon compte pour pouvoir arrêter. C'est dire à quel point le truc était addictif, c'est que j'étais obligé de le vendre en me disant, s'il est plus à moi, eh ben je peux plus me connecter dessus et c'est terminé, tu vois.
Si tu veux, le pote dont je te parle qui a fait 300 euros sur Genshin, c'était un de mes potes au lycée qui jouait à LOL, pas à LOL, à WoW.
Ok.
Donc en termes d'addiction, c'est un mec qui, voilà, c'était le genre de mec qui, il mettait pas de thunes dans WoW, bien sûr, mais il faisait des 60 heures par semaine de WoW, quoi.
Mais ce jeu-là, c'est trop addictif. Je sais pas, genre en plus le pire c'est que genre quand tu vas farmer, donc ce qu'ils appellent farmer, c'est vraiment faire des niveaux en boucle et en boucle et en boucle juste pour pouvoir drop un peu le même genre de truc, mais pour pouvoir te renforcer. Et en fait, ça te demande tellement aucun effort que tu le fais en même temps que tu fais autre chose. En fait, au final, t'as tout le temps ton téléphone allumé à côté en train de faire ça. Oh. En fait, c'est genre, on se rend pas compte à quel point c'est un gouffre à vie, en fait. C'est un gouffre à argent, c'est un gouffre à vie, c'est tout, genre.
Je peux vous dire que le Hearthstone, là, qui est sur mon téléphone, avant, j'y jouais sur PC, et puis maintenant, j'y joue sur téléphone. Donc vraiment, j'ouvre les yeux, je peux jouer à Hearthstone si je veux, tu vois.
Ouais.
Je peux vous dire, ça fait genre plus de 5 ans que j'y joue, et c'est horrible, faut que j'arrête, en fait. Et à chaque fois, je me dis ça, ma copine, elle me dit ça, et je...
Ah, Hearthstone, c'est ça, t'as mis aussi de l'argent, t'as des cartes, t'es quand t'es méta.
Ouais.
Quand t'arrives à avoir des decks qui sont très méta et que tu t'arrives à jouer et à gagner, bah, t'as envie de continuer. Sauf qu'après, ça change et tu dis, merde, il faut que je garde ce niveau-là. Donc, enfin, bref, non, mais c'est vrai, c'est ça.
Comme j'y joue depuis longtemps, j'ai quand même beaucoup de cartes et du coup, je peux m'amuser, si tu veux, sans
ouais, décrafter.
Mettre de la thune ou crafter. Par contre, il y avait un jeu comme ça aussi qui s'appelait, Clash Royale. Sur téléphone aussi avec des c'est un tower defense mais en versus en ligne avec ouais. Des mecs que tu dois affronter en envoyant tes
Supercell
ouais en envoyant tes unités contre les forts adverses et ce jeu là qui joue en temps réel contrairement à Hearthstone qui est du tour par tour ça mettait une forme de pression. Ce jeu là j'ai dû arrêter d'y jouer en fait parce que les combats me mettaient tellement sous pression et des fois je perdais vraiment à une demi seconde près. Et je me faisais taunt, je me faisais narguer.
Tout le monde.
Je me faisais vraiment BM sur le jeu, c'était horrible.
Comme sur Hearthstone.
Ouais, mais Hearthstone.
Bien joué.
Tu peux couper les emotes, tu peux calmer le jeu. Clash Royale, je trouvais c'est compliqué. Et un jour, en fait, j'ai vraiment tilté. C'est-à-dire que j'ai fait 7 défaites d'affilée, dont 3, mais vraiment au cordeau, à la seconde près, mon pote, mais t'as jamais vu ça.
Mm-hmm.
J'ai pris mon téléphone comme ça, tellement j'étais énervé. J'ai essayé de le casser en deux. Comme ça. Et l'écran s'est fissuré de haut en bas. J'arrête. Je désinstalle Clash Royale et je change de téléphone.
Tu prends un Nokia 3310, tu pourras pas installer Clash Royale.
Exactement.
Est-ce que tu aurais un mot de la fin, François, pour finir?
Non, comme je vous dis, vous me faites chier, 3 jeux, c'est pas assez.
On va créer le flop 3 des jeux et là tu vas pouvoir revenir pour parler des 3 jeux que t'as le plus détesté dans ta vie.
Ce serait marrant, vous pourriez faire des petits hors-séries, des trucs comme ça, ce serait marrant. Non, c'était un plaisir de discuter de ça avec vous. C'était compliqué, je trouvais, de choisir 3 jeux parce que j'ai beaucoup de périodes, on va dire, de jeux vidéo différentes. La période console, il y a eu les PC, il y a eu les consoles que je jouais sur PC, comme je vous disais, des trucs comme ça. Donc c'est cool. Et vous savez, je trouve que votre concept il est génial parce que j'ai beaucoup du coup de potes qui sont gamers comme moi. Et du coup, je leur ai parlé du podcast et je leur ai dit putain, je participe à un podcast là, il faut que je choisisse 3 jeux qui m'ont marqué et ils étaient tous en PLS en mode putain merde. Ah, moi, et du coup j'aurais posé la question, toi tu choisirais quoi? Et ils sont en mode oh, je sais pas, ah c'est dur. Généralement on bloque sur le troisième jeu. Ils sont en mode attends, ça et le troisième, ils sont en mode non, c'est pas possible. Donc c'est cool parce que c'est parler de jeux vidéo mais par le biais des émotions et des souvenirs, c'est vraiment cool parce que vous voyez par exemple à la base je me suis dit, allez, je vais vous parler de MGS1, Metal Gear Solid.
Ouais.
Parce que, immense.
Snake.
Ouais, et puis incroyable. Enfin, j'ai des souvenirs aussi sur ce jeu-là, vraiment. J'y ai beaucoup, beaucoup joué. Mais je me suis dit, ouais, mais c'est peut-être un des meilleurs jeux auxquels tu as jamais joué, mais est-ce que c'est le jeu qui t'a le plus marqué, dans le sens émotionnel du terme? Et je me suis dit, non, il y en a d'autres. Enfin, vraiment. Et donc, franchement, c'est cool de rentrer dans le jeu comme ça par ce biais-là, parce que on a tendance à, le jeu, on parle beaucoup de technique, de graphisme, etc., de je sais pas quoi. Il y a une discussion forcément très technique autour du jeu vidéo, et je trouve ça super d'en parler de manière la plus subjective, et la plus émotionnelle possible. C'est cool. C'est aussi ça, surtout ça, le jeu vidéo, quoi. C'est des émotions, c'est des moments, quoi. Donc, c'est cool. Franchement, c'est cool. Et faudra que vous fassiez un épisode avec votre top 3, du coup. Je serais très curieux.
Ouais, c'est prévu, ouais. On y pense, là.
Il sera influencé par tout le monde, en fait.
Ah non, top 3. Tu puisses dans ta propre, dans tes, ah,
dans
tes propres,
dans tes sentiments.
Non, c'est pas possible. Ce sera forcément toi. Ouais, c'est cool. En tout cas, merci beaucoup, hein.
Merci à toi, c'était vraiment cool.
À la prochaine. C'était du temps et des jeux. musique composée par Baxter. Si tu apprécies le podcast, parle-en à un ou une pote et partage-le sur la réseau. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles et nous laisser un avis positif sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, tu peux nous suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Allez, à la prochaine !